Bonjour à tous et à toutes, vous écoutez Radio Sommière. Aujourd'hui, dans le cadre de la 35e édition du festival Traversée à Lunel, nous vous emmenons à la découverte des rencontres ciné-jeunes. Alors bonjour, est-ce que vous pouvez nous faire une présentation de ce que sont les rencontres ciné-jeunes ?
Alors les rencontres ciné-jeunes, c'est des rencontres concernent des lycéens qui sont tous en section cinéma. Section cinéma, option de spécialité ou option facultative. C'est quelque chose qui est assez ancien. Sous cette forme-là que je vais vous décrire, ça existe pratiquement nulle part ailleurs en France. Il n'y a que le festival de Sarlat, il y a quelque chose qui s'y rattache un petit peu. Alors maintenant, on est à quasiment 30 ans, je crois. De quoi s'agit-il ? Il y a les lycéens du lycée de Lunel, du lycée du Feuillade à Lunel, en section cinéma, plus des lycéens qui viennent en voyage scolaire ici. Alors, par exemple, cette année, on reçoit des gens de Bédarieux, Orange, Aix-en-Provence, Millau, dans le Gard, et Nîmes. Voilà. C'est relativement local. On a pu avoir dans le passé des gens qui venaient de beaucoup plus loin. On a eu des gens qui venaient de Suisse, de La Réunion, vraiment de très loin, parce qu'il y a une certaine notoriété à ça. Et donc, ils se réunissent pendant 3 jours autour de grands types d'activités. C'est précisément des rencontres cinématographiques. Alors les rencontres, par exemple, ce matin, les 150 lycéens qui sont présents actuellement ont rencontré 2 jeunes cinéastes. Cette année, il s'agit de Léa Triboulet et Justine Arbonnier, qui sont venus présenter leurs films. Et donc, il y a un échange avec les lycéens autour de ces cinéastes qui sont déjà confirmés, mais qui ont leur carrière essentiellement devant eux, ces jeunes cinéastes. Voilà, elles préparent toutes les deux leur long métrage. Elles ont fait pas mal de courts-métrages qui ont été très remarqués. Et depuis quelques années, ça fonctionne comme ça. On fait venir plutôt de jeunes cinéastes en devenir. Et puis, il y a d'autres rencontres cinématographiques qui se passent, alors déjà entre eux. Vendredi matin, ce sera consacré à une activité qu'on appelle, nous, les confrontations. C'est un des premiers, d'ailleurs, festivals de films lycéens qui a eu lieu en France. On a une particularité, nous, c'est qu'il n'y a pas de compétition. Les lycéens présentent leurs films, ce sont eux qui décident des films qu'ils veulent montrer. Puis voilà, ils viennent les défendre devant leurs pairs, c'est-à-dire les autres lycéens, et ils discutent de leurs propres films. Moi, c'est une matinée, en général, très, très animée, très, très sympathique. Et la dernière rencontre, à proprement parler cinématographique, c'est le vendredi après-midi où on fait un écho à la première demi-journée, celle du mercredi avec des jeunes cinéastes, où on fait le vendredi, la demi-journée de clôture des rencontres, rencontre avec des cinéastes ou techniciens ou auteurs très confirmés. Par exemple, cette année, ils vont passer le dernier après-midi en compagnie de Yann Dedec, qui est surtout connu comme un des grands monteurs du cinéma français. Et là, il va parler d'un film qu'il a monté pour Jean-François Stévenin, et il va parler de sa position dans le cinéma. Il est également réalisateur, Yann Dedec. Donc on va avoir une discussion avec quelqu'un qui a une carrière de cinéma derrière lui, déjà énorme. Donc ça encadre le cinéma en devenir et le cinéma déjà à bout. Et puis, au milieu, c'est l'autre aspect de ces rencontres ciné-jeunes, il y a des ateliers qui oscillent entre la théorie et la pratique. Et où, en tout petit groupe, les lycéens sont encadrés par des professionnels pour faire des activités. Alors, elles ne sont pas les mêmes toutes les années en fonction des disponibilités des gens, des évolutions, des désirs. Par exemple, là, actuellement, il doit y avoir 10 d'ateliers qui sont en train de se faire. Alors, il y a Stéphane Laudier, qui est quelqu'un qui compte sur la place de la mise en scène théâtrale à Montpellier, qui fait un atelier de direction d'acteur. Comment dirige-t-on un acteur ? Alors à la fois il joue et il dirige. C'est important pour des gens qui s'intéressent, ne fût-ce que dans le cadre de leurs études, à la mise en scène. Il y a un atelier de maquillage. Sandrine Garcia, qui est une maquilleuse de cinéma, leur fait du maquillage façon effet spécial. Hein. C'est le maquillage latex où ils peuvent sortir avec un bras cassé en deux, un os qui sort. Enfin bon, tout ça étant effectivement assez faux. On a à côté un plateau télé où il y a plusieurs postes. Il y a toute une machinerie absolument gigantesque qui a été amenée par toute une équipe. Voilà, il y a plein de choses. Il y a un atelier montage autour du documentaire par Stéphane Ballet, mise en scène documentaire par Justine Arbonnier qui a présenté ses films ce matin et anime un atelier. Un atelier mise en scène et décor par Léa Triboulet qui a aussi fait partie des jeunes cinéastes qui ont présenté leurs films ce matin. Voilà, toute une série d'ateliers, son. Demain, par exemple, il va y avoir un nouvel atelier qui n'a pas eu lieu les années précédentes, c'est jeu burlesque. C'est-à-dire qu'on va avoir une clown théâtre, Sylvie Bousquet, avec qui on a déjà travaillé à plusieurs reprises, qui va venir animer un atelier pour la première fois sur le jeu burlesque au cinéma. Elle va étudier des séquences et mettre les élèves en pratique pour mettre en place la mécanique du gag. Voilà ce que sont les rencontres ciné-jeunes.
Comment vous procédez pour choisir les intervenants ?
Alors, bon, les intervenants, comme je disais tout à l'heure, ça part du désir, hein, bon, déjà de l'équipe d'organisation, et puis aussi d'une évolution des pratiques. Par exemple, il y a quelques années, on faisait un atelier qui était un atelier montage, à proprement parler montage, qui avait un côté très technique. Hein. Bon, pas seulement, parler de montage seulement d'un point de vue technique, ça n'a aucun sens. Il y avait donc l'aspect technique du montage et évidemment l'aspect créateur du sens. Mais l'aspect technique avait une importance assez grande dans cet atelier. De nos jours, faire ça, c'est ridicule. Les jeunes, on les voit arriver à 15 ans au lycée, la moitié d'entre eux, ils connaissent parfaitement la technique du montage. Ça n'a plus tellement de sens de faire un atelier technique là-dessus parce qu'il y a une évolution des pratiques. Tous les jeunes ont un ordinateur, tous les jeunes ont un logiciel de montage sur leur ordinateur et ils se débrouillent assez bien. Donc on va plutôt, nous, en classe, par exemple, travailler sur l'aspect sémantique du montage et beaucoup moins sur l'aspect technique. Donc il y a des ateliers qui disparaissent pour ça, parce qu'il y a une évolution des choses. Et puis ensuite, bon, ben, par exemple, il y a des gens avec qui j'ai déjà travaillé qui ne sont pas disponibles l'année suivante. Donc il faut que je les remplace par autre chose, alors par quelqu'un d'autre, et souvent un autre type d'atelier. Et là, bon, c'est le hasard des rencontres qu'on peut faire, des gens avec qui on parle. L'an dernier, il y avait une intervenante qui était sur un type d'atelier précis et qui n'a pas pu venir au dernier moment. C'est des choses qui arrivent souvent dans ce milieu. J'ai trouvé quelqu'un qui l'a remplacé au pied levé, mais sur un sujet un peu, enfin, voisin, mais pas le même. Et puis voilà, ça s'est formidablement bien passé. Un nouvel entrant dans la famille des rencontres. Entre la disponibilité des, ou l'indisponibilité des gens, l'évolution des pratiques, et puis les rencontres qu'on peut faire quand on se promène dans le milieu du cinéma, voilà, c'est comme ça que ça évolue. Et puis on se rend compte que des fois, on a beaucoup, on a besoin de se renouveler aussi. Même si c'est pas les mêmes stagiaires, les organisateurs ont besoin de se renouveler eux-mêmes pour conserver une dynamique. Et donc on essaye de toujours essayer de proposer des choses un petit peu plus exigeantes, un petit peu mieux organisées, un petit peu mieux... Je dis pas qu'on progresse toutes les années, hein. Des fois il y a un peu de recul, et puis des fois ça progresse bien. Voilà, des critères de choix.
Et du coup, vous, personnellement, qu'est-ce que ça vous apporte de participer à ce genre de projet ?
Alors, moi, je suis depuis quelques années le responsable de ces rencontres. Après, il y a Tristan Edelec qui, maintenant, à la programmation, a été le responsable. Il y en a eu beaucoup d'autres avant nous. Ce que ça m'apporte, c'est beaucoup de travail et beaucoup d'ennuis. Vous imaginez bien 150 lycéens. Là, on doit avoir vingtaine d'intervenants différents, 5 lycées, du matériel à organiser. Vous êtes arrivé un peu tard, mais vous m'aurez vu courir ce matin dans les couloirs, monter des étages 15aine de fois, les bras chargés de matériel pour assurer la mise en place technique de ces ateliers. Là, c'est un peu de l'humour ce que je fais. Effectivement, c'est beaucoup de travail. Ce que ça m'apporte, c'est que précisément, moi qui suis dans la transmission, j'ai l'impression d'amener un gros plus à tous les jeunes qui sont là en matière de contenu. Sur des formats courts, 3 heures, alors par exemple, là, il y a, j'en ai pas parlé tout à l'heure, Christophe Joubert qui fait un atelier un peu provocateur dans son intitulé. À bas la mise en scène, vive le cadre. Donc là, ils sont en train de faire un peu d'analyse filmique qui va peut-être déboucher sur de la pratique, sur une façon de faire du cinéma qui sort un peu du cadre habituel. On écrit son scénario avec les 3 actes, machin, etc. Lui, il fait exposer tout ça et il amène du coup un regard neuf. Et comme c'est 3 heures, c'est très intense, donc il va vraiment aller vite au cœur du sujet. Donc on amène un plus en matière de formation, en matière de connaissances et puis en matière de plaisir, j'espère, à tous ces jeunes. Ça s'ajoute à leur formation déjà en classe, reçue avec leurs professeurs qui sont tous très compétents. Et donc on participe à quelque chose qui, pour nous, profs de cinéma, et ça vous pouvez parler à n'importe quel prof de cinéma, il vous dira peu ou prou la même chose, à quelque chose qui est de l'ordre du salut national, c'est-à-dire apprendre aux gens à lire les images, à comprendre les images, dominer les images. On fait acte d'éducation et on le fait d'une manière qui conjugue un approfondissement intellectuel, un approfondissement technique et un aspect ludique. Tout ça, c'est plutôt utile. Si je reviens sur l'atelier maquillage de Sandrine Garcia, tout à l'heure, j'ai dit latex, effet spécial, vous avez un os qui sort, un faux os qui sort ou une fausse cicatrice sur la joue. Ça paraît ludique, ça l'est effectivement. Mais Sandrine Garcia, d'abord, elle commence par une partie théorique qui leur montre à quel point l'effet spécial latex, quoi, le maquillage latex, peut rentrer en ligne de compte dans la mise en scène d'un film. C'est-à-dire que c'est pas juste quelque chose de rigolo, on est au cœur du sujet. Et voilà, et on est sur des choses très pointues parfois, qui permettent aux élèves d'approfondir leur connaissance du cinéma. Donc on a l'impression de participer à ça. Améliorer le niveau et puis faire plaisir en plus. Donc c'est tout bénef. Écoutez, j'espère qu'on verra en tout cas. En fait, vous savez, ça se passe dans le cadre du Festival Traversé. Ça se passe au lycée Louis Feuillade, avec qui Pêcheur d'Images a une collaboration. Mais j'espère que les éditeurs de Radio Sommière, enchantés parce qu'ils viennent d'écouter, viendront également au festival et qu'on pourra prolonger la discussion.
Je m'appelle Léa Triboulet, je suis réalisatrice.
Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre parcours ? Comment vous en êtes arrivée aujourd'hui à la réalisation ?
Alors, mon parcours, du coup, moi j'étais au lycée en option cinéma à l'ES. Et après, je suis partie faire l'école supérieure des arts décoratifs à Strasbourg, qui est une école d'art, où je suis restée 5 ans et je suis sortie avec un diplôme en scénographie, donc un DNSEP, où j'expérimentais l'image filmée, je faisais des essais et du coup me penchais sur ces questions cinéma, image et lieu. Et après, j'ai commencé à travailler sur des tournages et je suis repartie aussi faire un an d'études à Sarajevo dans une école qui s'appelle la Film Factory menée par le réalisateur hongrois Bélatar.
Est-ce que vous pourriez nous parler un peu plus en détail de ce programme de la Film Factory et pourquoi être partie à Sarajevo, voilà, avoir voyagé et avoir fait ce programme-là?
Alors l'idée c'était, j'avais postulé parce que du coup Bélatar ouvrait cette école à Sarajevo qui était un programme du coup post-diplôme pour les jeunes réalisateurs, donc ciblé vraiment sur la réalisation, la mise en scène avec des ateliers avec des réalisateurs invités ou des professionnels du cinéma, donc à Sarajevo en Bosnie. Et j'avais très envie du coup de rencontrer ce réalisateur qui, voilà, ses films m'avaient beaucoup marqué, son cinéma, donc son approche m'intéressait beaucoup, et d'avoir ce suivi de projet avec lui. Voilà, j'avais postulé, je me suis du coup retrouvée avec 15 autres jeunes réalisateurs du monde entier, il y a une japonaise, un islandais, un mexicain, un portugais, une espagnole, enfin voilà. J'étais la seule française et du coup on a travaillé tous ensemble, on a tourné des courts-métrages suivis par Bélatar et eu pas mal d'ateliers donc avec des réalisateurs comme Gus Van Sant, Carlos Regadas, il y a eu Apichev Ongwarezatakul qui est venu aussi, enfin voilà, c'était des moments très très riches et très très fort, donc par rapport à un cinéma vraiment engagé dans un cinéma d'auteur, un cinéma qui voit le travail comme un travail artistique et un travail qui s'intéresse beaucoup, voilà, aux lieux, aux gens qu'on rencontre et avec une approche de l'image aussi spécifique.
Et du coup, qu'est-ce que ça vous a apporté en tant que personne et en tant que réalisatrice, voilà, d'avoir fait ça? Qu'est-ce que ça vous a apporté, pardon, après, en étant sortie de cette école, pour vos propres courts-métrages, réalisations?
Du coup, j'ai fait un court-métrage là-bas, à Sarajevo, qui était, on va dire, mon premier court-métrage qui a, voilà, tourné en festival. Donc c'était aussi très fort, et j'avais travaillé avec des acteurs bosniens et serbes et une équipe du coup, on va dire internationale, avec mes collègues. Pour moi, ça a été un avant après Sarajevo, dans le sens où ça m'a vraiment me positionner par rapport à mon travail en tant que, voilà, réalisatrice, jeune réalisatrice, par rapport aussi à des choix de cinéma, de ce que j'avais envie de faire. Ça m'a vraiment confrontée à mes envies, mais dans le bon sens du terme, où j'avais vraiment envie de continuer à faire des films.
D'où vous viennent justement vos idées pour vos courts-métrages? Est-ce que ça vient de rencontres, de lectures, de moments de vie, de votre vie personnelle?
Ça vient un peu de tout ça. Disons que quand j'écris, ça vient des choses qui me touchent. Ça peut être aussi des rencontres, de gens que je rencontre qui me racontent des choses ou qui me touchent parce qu'ils ont une personnalité tellement forte ou que j'ai envie de retranscrire d'une certaine façon. Ça peut être des choses que j'ai entendues. Ça peut être des situations que j'ai vécues. C'est un peu plein de choses en fait qui nourrissent mon écriture.
Et quel type d'histoire vous aimez un peu raconter, parler dans vos courts-métrages ?
Dans mes courts-métrages, les trois courts-métrages, les derniers, les trois que j'ai réalisés, c'était, il y avait des personnages de femmes à chaque fois, c'était un peu des portraits. Celui que j'ai fait à Sarajevo, c'était une jeune femme de 25-30 ans. Après, j'en ai fait un autre, Sophia Bédormémal, qui la suit, une adolescente qui va rencontrer sa grand-mère qu'elle ne connaît pas. Et le dernier, The Brother, qui était un portrait de trois sœurs, donc 6 ans, 12 ans et 16 ans, après la perte de leur frère. Donc il y a des choses liées au deuil, à la perte, à la reconstruction et par ces personnages féminins. Et les prochains projets, il y a encore des personnages féminins, mais les thèmes s'ouvrent et ça sera pour la suite.
Et du coup, est-ce que quand vous commencez à construire un peu vos films, vous savez déjà que vous allez prendre des personnages féminins ou c'est quelque chose qui se fait un peu au fur et à mesure, presque inconsciemment, voilà, au fur et à mesure de la construction.
Non, c'est pas, enfin, c'est pas une envie de me dire je vais faire des films que avec des personnages féminins. C'est pas l'idée. Le dernier court métrage The Brother, ça s'est imposé puisque le scénario je l'ai écrit suite à la rencontre de trois sœurs. Donc c'est plus la rencontre qui a déclenché le film. Et là les projets que j'ai en cours, il y a des personnages masculins aussi. Donc je pense que ça dépend là des sujets aussi abordés, des envies de réalisation et de personnages. Enfin, j'écris pas en me disant oui, ça va d'abord être une femme. Non, c'est pas ça. C'est aussi tout ce qui se construit par rapport à ces histoires.
Pour une question un peu plus générale, est-ce qu'il y a des réalisateurs qui vous influent au niveau du cadre, au niveau des histoires, au niveau des décors, au niveau même des personnages peut-être ?
Oui, il y en a beaucoup. Après, voilà, j'ai fait cette école à Sarajevo et du coup, Bellatar, voilà, une approche voilà, très particulière du cinéma, voilà, au niveau du cadre, de l'image. C'est un cinéma que j'aime beaucoup, comme un cinéma de Pedro Costa, Abishapongo Azetakul. Par exemple, il y a aussi Teresa Villaverde, que j'aime beaucoup. Mais après, bah, si on revient en France, Piala aussi, c'est quelqu'un que... voilà, je pourrais continuer à en citer beaucoup, mais oui, il y a beaucoup de réalisateurs, évidemment, qui ont nourri mon envie de faire des films aussi et qui continuent de la nourrir.
Alors sur un côté un peu plus technique, comment vous préparez un peu vos tournages ?
Du coup, il y a l'écriture du scénario, après il y a la recherche de lieux, donc les repérages, et il y a aussi tout le casting. Donc ça prend du temps pour trouver les bons lieux, les bonnes personnes, et de travailler en amont avec les acteurs, s'ils sont aussi non professionnels, de faire des répétitions. J'aime beaucoup travailler par rapport à des lieux réels, donc c'est aussi toute cette partie-là. De préparer le tournage en amont, de parler avec le chef opérateur, d'aller dans les lieux, de préparer ces cadres en ayant une possibilité sur le tournage d'avoir du temps pour laisser part à la surprise, à l'inattendu.
Et est-ce que ça vous partait, des fois quand vous écrivez, vous avez déjà une idée de lieu en tête ou est-ce que c'est suite à l'écriture, vous cherchez des lieux ? Est-ce que ça vous arrive aussi d'avoir un lieu en tête et de vous dire c'est vraiment là où j'ai envie d'être quand vous êtes en train d'écrire ?
Oui, il peut y avoir les deux. Il peut y avoir déjà dans l'écriture des lieux en tête et après une recherche de lieux. Je pense que c'est un peu deux choses qui se mélangent. Enfin, je pense voilà, par image, donc il y a beaucoup de choses qui sont liées à des endroits que j'ai traversés ou peut-être que j'ai envie de tourner là-bas ou de retrouver des choses peut-être qui s'apparentent. Mais oui, le lieu est important.
Alors, quelle relation vous entretenez avec les spectateurs ?
Du coup, ça se passe quand on va montrer nos films. Donc, c'est toujours intéressant les moments des festivals où on peut parler avec les spectateurs et voilà, être vraiment savoir leur retour, de créer un dialogue avec eux. Donc, je trouve que c'est des moments toujours intéressants.
Pour finir, est-ce que vous pourriez citer un film qui vous a marqué ?
Ah oui, je sais. Il y en a beaucoup, mais là, je penserais peut-être aux Ailes du désir de Wim Wenders, qui m'a beaucoup marqué. Je l'ai vu, je pense, j'avais 13-14 ans, et j'étais totalement fascinée par ce film, par justement tout le travail de l'image, du son, de ces personnages. Dès les premières images du film, j'étais dedans. Voilà, ça m'a même beaucoup marqué.
Bonjour, alors moi c'est Justine Arbonnier, je suis cinéaste, je réalise des documentaires.
Du coup, vous pouvez un peu nous parler de votre parcours et comment vous en êtes arrivée là aujourd'hui à être du coup cinéaste ?
Alors moi je viens de la littérature, enfin j'ai fait des études en littérature. Le documentaire pour moi ça a été un champ de possibilités, d'expérimentation. Ce que j'ai aimé avec le documentaire c'est disons la simplicité, le fait d'avoir une caméra, de pouvoir partir en petite équipe, de se confronter directement au réel, qui était tout le contraire en fait de mes études disons plus théoriques que je suivais à ce moment-là. Donc le documentaire pour moi ça a été c'est ça, la liberté.
Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de l'origine de vos films, justement, les documentaires ? Est-ce que ça naît de rencontres, de livres, de choses dont vous entendez parler ?
Mes documentaires sont tous nés d'un lieu, avant tout. Pour le premier, d'un personnage, d'une jeune femme que j'ai rencontrée quand j'étais en Floride, pour mon deuxième court-métrage. C'est vraiment un lieu, un quartier de Montréal qui est en transformation. Ce qui me plaît, c'est un peu ce que j'ai essayé de faire aujourd'hui en atelier avec les élèves pendant le festival. C'est de réfléchir à comment on peut partir du réel, comment on peut partir d'un lieu, de quelque chose de très cadré et généré. Un récit, construire des histoires en fait. Voilà, moi j'aime c'est ça, partir de choses ancrées du réel et de personnages bien sûr qui peuvent venir nourrir ensuite l'écriture.
On a vu du coup que vous étiez plus entre la France et le Canada. Qu'est-ce que ça peut vous apporter par rapport à votre métier ?
J'ai commencé le documentaire au Canada, à Montréal. Ça a été pour moi... je me suis beaucoup répétée tout à l'heure en disant un espace de liberté, etc. Mais en fait, c'est intéressant. Ça m'a permis, le fait de partir, de quitter la France, de partir de chez moi, ça m'a offert justement une sorte de... je me suis sentie détachée peut-être de tout ce que j'avais pu faire avant. Et l'étranger a permis cette ouverture, cette sensation de, je sais pas, de champ des possibles un peu plus. Et le fait d'être loin de la France, de loin de ce qu'on connaît aussi, c'est excitant, c'est aussi c'est l'aventure. Enfin, il y a quelque chose de stimulant. Aujourd'hui, je vis entre les deux. Donc là, par exemple, je développe un long métrage. Donc j'ai une productrice à Montréal et une productrice à Paris. Ce qui est vraiment bien, c'est que ça apporte en fait des points de vue, des manières de faire qui sont différentes. Et donc ça enrichit les projets.
Alors on a lu aussi que vous avez fait aussi des fictions. Qu'est-ce que vous aimez dans chacun des styles, un peu des genres ? Qu'est-ce qui vous plaît dans chacun des genres ?
Alors j'ai pas fait de fiction en tant que telle. Il n'y a pas de souci. En fait, non, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un film qui était un peu plus expérimental, qui était un vidéo-poème, qui était fait à partir d'images d'archives tournées par mon grand-père en Afrique, sur laquelle j'ai enregistré une voix, un poème d'Anne Hébert, une auteure québécoise. Par contre, ce que je peux dire, c'est que pour moi, en fait, c'est presque... peut-être pas dépassé, mais disons que j'ai vraiment très sincèrement du mal parfois à aborder le cinéma sous cet angle-là. Qu'est-ce qui est de la fiction, qu'est-ce qui est du documentaire. Comme je le disais, moi, ce que j'aime, c'est partir du réel, mais à partir du moment où il y a un point de vue, un regard qui est posé sur ce réel, je pense qu'on quitte le documentaire, on crée quelque chose d'autre qui peut s'apparenter à de la fiction. Donc, en fait, je pense que les frontières sont très poreuses et je sais même pas si parfois je fais du documentaire. Je pense que je suis vraiment entre les deux. J'écris à partir de choses qui m'inspirent, qui sont dans le réel. Je les transforme pour en faire autre chose. J'aime travailler avec des personnages qui m'inspirent, que je mets en scène, voilà, et qui ont leur propre vie. Enfin, c'est-à-dire que je m'intéresse à, je pars de leur vie, donc ça c'est du documentaire, mais j'essaie d'aller vers quelque chose de voilà peut-être plus imagé ou.
Vous parlez beaucoup justement des personnages qui vous inspirent, des lieux qui vous inspirent, voire même pourquoi pas des réalisateurs aussi. Du coup, quels seraient ces réalisateurs qui vous ont inspiré et continuent à vous inspirer pour vos films?
Alors, je pense que c'est à propos de parler d'elle, étant donné qu'elle, malheureusement, elle nous a quittés vendredi dernier. Voilà, donc Agnès Varda, c'est quelqu'un qui, sincèrement, m'a beaucoup marquée. Quand j'ai découvert ses films, je les ai découverts assez tard, en fait. Je suis venue assez tard au cinéma, comme je le disais, j'ai plutôt fait des études de lettres avant, etc. Et en fait, Agnès Varda, quand j'ai découvert ses films, donc là, je pense aux Plages d'Agnès particulier, où elle revient un peu sur toute sa cinématographie, je me suis vraiment dit, ah ouais, on peut faire ça. Enfin, c'est vraiment cette cinéaste qui pour moi justement, je parlais de frontières, qui a réussi à bousculer un peu tout ce que je pensais que c'était dans, disons, une formation. Quand on a une formation un peu théorique, on a tendance à mettre les choses un peu dans des cases. Donc Agnès Varda, elle m'a montré que la littérature était dans le cinéma, que le cinéma c'était du réel, que c'était de la fiction, que tout ça se mélangeait, qu'il n'y avait pas de... Elle a été plasticienne aussi à la fin de sa vie. C'est l'exemple de l'artiste même pour qui les disciplines s'influencent les unes les autres. Elle travaille avec différents matériaux. Enfin voilà, elle aime brasser les genres. Donc j'irai Agnès Varda. Après, j'aime beaucoup aussi, sinon donc en documentaire, j'aime beaucoup les films de Frédéric Wiseman, qui est un réalisateur américain qui vit en France, mais qui a fait beaucoup de films autour de lui. Claire Simon aussi. Voilà, il y en a énormément en fait. Donc là, c'est les noms qui me viennent, les premiers noms. Mais il y en a beaucoup du documentaire et de la fiction aussi.
Comment ça se passe pour préparer un tournage de documentaire ?
Alors, ça peut se passer de plein de manières différentes. Par exemple, là, je peux parler de ce que je vis actuellement. Donc, je pars en tournage là, dans un mois et demi au Nouveau-Mexique, aux États-Unis. Donc, c'est un film sur lequel je travaille depuis 2 ans environ. Comment ça se passe ? C'est que je suis partie plusieurs fois en repérage là-bas. Le film va parler d'un personnage qui s'appelle Katie, qui est une jeune femme qui vit au Nouveau-Mexique. Donc le film est part de sa vie et inspiré par sa vie. Donc j'ai beaucoup repéré, j'ai beaucoup écrit, j'ai beaucoup réfléchi à ce que je voulais mettre en scène, ce qui m'intéressait chez cette femme. Voilà, et j'ai encore une fois écrit, envoyé des dossiers de subvention pour avoir de l'argent, pour pouvoir avoir une équipe, pour pouvoir partir tourner. Et voilà, et finalement là j'ai eu du financement, donc je peux partir tourner ce que j'imagine depuis 2 ans. Même si j'avais quand même fait des repérages, mais voilà.
Et du coup, dans vos tournages précédents, est-ce qu'il y a beaucoup de prises de vue ?
Oui, moi, c'est-à-dire que moi, j'ai une caméra qui cherche. Donc, j'étais à la caméra sur tous mes projets, accompagnée de quelqu'un, mais j'ai eu toujours un rapport assez fort à la caméra et l'envie de filmer. Donc, je cherche, je teste beaucoup. Et après, à un moment donné, pour mon dernier court-métrage, par exemple, c'est des plans qui sont très construits, qui ont été très pensés avant, en amont. Donc, il y a eu peu de prise de vue, en fait. Enfin, même si, vu qu'on est en documentaire, ça ne s'applique pas forcément toujours de dire rejouer. Mais quoi que si, c'est possible aussi de mettre en scène les choses. Donc, voilà. Mais en général, les plans que je garde au montage, ce sont des plans qui finalement ont été quand même souvent beaucoup pensés en amont ou voilà, ils existent parce qu'ils ont été cherchés, ouais.
Et justement, le montage de ce documentaire, comment ça se passe pour le choix des plans, quelle prise, bon, même si vous réfléchissez aux plans, puis la musique, est-ce qu'il y a de la musique ou pas, comment ça se construit un peu tout ça ?
Eh bien, encore une fois, c'est très différent suivant les projets. Mon premier court-métrage, j'ai été partie avec une idée, avec un fort désir, on va dire, de ce que j'allais chercher. Enfin, je savais ce que je voulais chercher, je savais le sentiment, l'intention que j'avais envie d'exprimer avec ce film. C'est ce qui m'a guidée au tournage, c'est ce qui m'a guidée au montage, mais j'ai écrit véritablement l'histoire au moment du montage. Donc il y a eu un très grand travail de dérochage, de regarder, de chercher finalement dans toute cette matière ce qui allait pouvoir être le fil conducteur, le véritable fil conducteur. Mon dernier court-métrage, Andrew Keegan déménage, là je savais à partir du moment où j'ai mis on sur la caméra jusqu'à ce que j'arrête de filmer, je savais ce que j'allais faire, j'étais beaucoup beaucoup plus construit, donc au montage ça a été beaucoup plus rapide et le son, la musique, à ce moment-là, je tenais beaucoup à ce qu'on appelle la musique intradiégétique, c'est-à-dire que je voulais que la musique soit liée aux environnements dans lesquels je filmais, j'avais pas envie d'ajouter de la musique déconnectée, enfin voilà, de prendre un morceau, voilà. Mais là, pour le projet sur lequel je travaille, j'ai envie de travailler avec un compositeur et de travailler même en amont l'univers musical du film. Voilà.
Du coup, vous, comment vous entretenez un peu la relation avec vos spectateurs ?
Je vais plutôt répondre dans le processus de fabrication, parce qu'après ça me paraît, c'est-à-dire qu'on, enfin les spectateurs, c'est un peu indéfini. Enfin, je veux dire, c'est quelque chose de, voilà, tout le monde est spectateur. Un spectateur, c'est quelqu'un qui regarde ce que je propose comme spectacle. Enfin voilà, donc c'est un peu compliqué de définir ça, mais après, je dirais que qu'est-ce qui m'amène au spectateur ? Je pense que d'abord, il y a un fort désir qui est plutôt intime et personnel, un désir de réaliser quelque chose. Et quand, dans un second temps, il y a ce souci du spectateur, c'est-à-dire de comment construire une histoire qui peut rejoindre, qui potentiellement ça peut rejoindre, etc. Donc je pense que c'est quelque chose qui arrive dans un second temps. Et une fois qu'on est face aux gens et qu'on a leurs réactions, leurs questions, etc., ce qui est magique, c'est que tout d'un coup, le film va dans des directions auxquelles je n'avais pas pensé, prend des sens, un sens que je n'avais pas pensé, et les gens peuvent se l'approprier. Et c'est ça qui est, je pense, l'idéal.
Et pour finir, est-ce que vous pourriez nous parler d'un film qui vous a marqué ?
Je vais vous parler d'un film. Donc, je vais vous parler d'un film que j'ai vu il n'y a pas longtemps. Donc, il y a un festival que je conseille qui s'appelle Cinéma du Réel, qui a lieu à Beaubourg, à Paris, chaque année au mois de mars. Et donc là, j'ai vu récemment un film d'un réalisateur espagnol qui s'appelle Eloy Dominguez Serén. J'espère que je n'écorche pas trop son nom. Ce film s'appelle Amada. En fait, il traite d'un peuple, donc des Sahraouites, qui vivent entre l'Algérie et la Mauritanie et qui est un peu un peuple en exil dans une sorte de non-lieu. Et donc, c'est le réalisateur qui cadre lui-même, qui a l'image. Il a tourné sur plusieurs années, je crois, et je trouve que c'est une leçon de cinéma pour justement la force qu'il arrive à aller chercher, déjà chez les personnes qu'il a filmées, et en plus, dans ce lieu, comment il filme ce lieu de manière déjà poétique et aussi vraiment étonnante. Et voilà, Amada, c'était vraiment... Malheureusement, ces films-là ont pas assez, je pense, de visibilité, mais c'était vraiment un super film.
Merci beaucoup.
Merci à vous. Est-ce que vous pouvez un peu nous dire pourquoi vous avez choisi cet atelier ?
Personnellement, c'est un atelier que j'avais choisi. Je voulais en fait voir comment on pouvait passer d'une image mentale justement à en fait une histoire, parce que c'est quelque chose qui, je pense, pour pas mal de personnes peut être assez compliqué, un peu comme l'angoisse de la page blanche, si je ne me trompe pas. Et je voulais savoir comment en fait on pouvait aider à surmonter ça, et ça m'a bien aidé, j'ai trouvé ça super intéressant.
Du coup, c'était quel atelier ?
Ça, c'était de l'image mentale à la mise en scène.
Du coup, est-ce que tu fais une option cinéma dans ton lycée ? Parce que si t'es à ce lycée ?
Je suis pas dans ce lycée, je suis à Aix en L spécialité cinéma. Donc ouais, je touche à du cinéma. 7 heures, c'est super bien. Enfin, moi j'aime trop parce que c'est ce que je vais faire plus tard, du cinéma et voilà.
Voilà, du coup t'as des projets un peu en rapport avec le cinéma. Est-ce que c'est pareil pour vous deux aussi à la suite, vous voulez faire du cinéma?
Non, enfin moi c'est plus que ça m'intéresse ce domaine, mais je veux pas forcément travailler dedans, à la limite en tant que comédienne ou actrice, mais pas dans le technique. Mais même si c'est hyper intéressant, c'est pour ça d'ailleurs que j'ai pris la spécialité, et voilà.
Moi je sais pas vraiment si je veux travailler dans le cinéma, mais c'est juste que comme mon père est ingénieur du son, bah du coup depuis que je suis toute petite je suis plongée dedans, et quand j'ai vu l'option cinéma, pour moi je me suis dit bah faut que je fasse ça, mais du coup je sais pas vraiment où ça va me mener, mais pourquoi pas.
Et du coup, quel est votre, on va dire, votre poste préféré?
Moi personnellement c'est la réalisation et être acteur, c'est deux choses que j'aime énormément parce que c'est, je sais que c'est pas facile mais j'aime bien essayer de me surpasser et puis c'est super intéressant je trouve, puis ça aide énormément à la confiance en soi je pense, puisque ça m'a bien aidé moi.
Moi je pense que la personne que je préfère c'est les assistants réalisateurs parce qu'ils sont, c'est pas les chefs, donc déjà c'est bien parce que moi j'aime pas diriger comme ça. C'est eux qui coordonnent tout et en fait sur un tournage c'est incroyable parce qu'il y a plein de métiers différents et l'assistant réalisateur va un petit peu tous les coordonner et les relier entre eux et je pense que c'est celui que je préfère en fait. Voilà.
Je pense que ça serait plus la caméra, donc tenir la caméra et filmer, ou scénariste parce que j'aime bien écrire et j'ai assez d'imagination, donc voilà.
Je vais juste vous demander une dernière question. C'est quoi votre film préféré ou acteur ou réalisateur?
Alors nous, hier, on a vu un film que j'ai adoré, c'est À bout de souffle de Godard. Donc du coup, pour l'instant, je pense que c'est lui mon film préféré. J'en ai d'autres, mais c'est lui qui me vient à l'esprit comme ça, parce qu'il était trop bien. Voilà.
Moi, j'ai envie de dire exactement la même chose qu'elle, parce que c'est un film, quand je l'ai vu, j'ai juste trouvé génial la nouvelle vague française. Enfin, je comprends pourquoi en fait, c'est aussi connu en fait, dans le monde. Ouais, je pense que... Ouais. À bout de souffle de Godard est un de mes films préférés.
Alors, j'ai bien aimé À bout de souffle, mais mes films préférés, je pense que c'est... Bon, ils sont un peu anciens, mais c'est la duologie de Manon des Sources avec Gérard Depardieu quand il est jeune. Et voilà, je les ai vus il y a longtemps et j'ai trop aimé. Enfin, voilà.